Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, je vous propose de redécouvrir un classique de la littérature française du XXe siècle. Il s'agit du roman de François Mauriac, Thérèse d'Esquerou, paru en 1927 aux éditions Grasset et disponible en édition de poche. L'avocat ouvrit une porte. Thérèse d'Esquerou, dans ce couloir dérobé du palais de justice, sentit sur sa face la brume et, profondément, l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme, dont le col était relevé, se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. L'avocat cria « Non-lieu !» et, se retournant vers Thérèse, « Vous pouvez sortir, il n'y a personne. » Elle descendit des marches mouillées. Oui, la petite place semblait déserte. Son père ne l'embrassa pas, ne lui donna pas même un regard. Il interrogeait l'avocat Duros, qui répondait à mi-voix, comme s'ils eussent été épiés. Elle entendait confusément leurs propos. « Je recevrai demain l'avis officiel du non-lieu. » « Il ne peut plus y avoir de surprise ?»« Non, les carottes sont cuites, comme on dit. » Après la déposition de mon gendre, c'était couru. Couru, couru, on ne sait jamais. Du moment que de son propre aveu, il ne comptait jamais les gouttes. Vous savez, Larocque, dans ces sortes d'affaires, le témoignage de la victime... La voix de Thérèse s'éleva. Il n'y a pas eu de victime. J'ai voulu dire victime de son imprudence, madame. Les deux hommes, un instant, observèrent la jeune femme immobile, serrée dans son manteau, et ce blême visage qui n'exprimait rien. Elle demanda où était la voiture. Son père l'avait fait attendre sur la route de Budos, en dehors de la ville, pour ne pas attirer l'attention. Ils traversèrent la place, des feuilles de platane étaient collées aux bancs trempés de pluie. Heureusement, les jours avaient bien diminué. D'ailleurs, pour rejoindre la route de Budos, on peut suivre les rues les plus désertes de la sous-préfecture. Thérèse marchait entre les deux hommes qu'elle dominait du front et qui, de nouveau, discutaient comme si elle n'eût pas été présente. Mais, gênée par ce corps de femme qui les séparait, il le poussait du coude. Alors, elle demeura un peu en arrière, déganta sa main gauche pour arracher de la mousse aux vieilles pierres qu'elle longeait. Parfois, un ouvrier à bicyclette la dépassait, ou une carriole. La boue jaillie l'obligeait à se tapir contre le mur. Mais le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent. L'odeur de fournil et de brouillard n'était plus seulement pour elle l'odeur du soir dans une petite ville. Elle y retrouvait le parfum de la vie qui lui était rendue enfin. Elle fermait les yeux au souffle de la terre endormie, herbeuse et mouillée, s'efforçait de ne pas entendre les propos du petit homme aux courtes jambes arquées qui, pas une fois, ne se retourna vers sa fille. Elle aurait pu choir au bord de ce chemin. Ni lui, ni Duros ne s'en fussent aperçus. Il n'avait plus peur d'élever la voix. La déposition de M. d'Esquerou était excellente, oui. Mais il y avait cette ordonnance, en somme, il s'agissait d'un faux. Et c'était le docteur Pédemet qui avait porté plainte. Il a retiré sa plainte. Tout de même, l'explication qu'elle a donnée, cet inconnu qui lui remet une ordonnance. Thérèse, moins par lassitude que pour échapper à ces paroles dont on l'étourdissait depuis des semaines, ralentit en vain sa marche. Impossible de ne pas entendre le fausset de son père. « Je le lui ai assez dit, mais malheureuse, trouve autre chose, trouve autre chose !» Il le lui avait assez dit, en effet, et pouvait se rendre justice. Pourquoi s'agit-il encore? Ce qu'il appelle l'honneur du nom est sauf. D'ici les élections sénatoriales, nul ne se souviendra plus de cette histoire. Ainsi songe Thérèse qui voudrait bien ne pas rejoindre les deux hommes. Mais dans le feu de la discussion, ils s'arrêtent au milieu de la route et gesticulent. « Croyez-moi, Laroque, faites front. Prenez l'offensive dans le semeur de dimanche. Préférez-vous que je m'en charge ? Il faudrait un titre comme « La rumeur infâme ». Non, mon vieux, non, non, que répondre d'ailleurs ? C'est trop évident que l'instruction a été bâclée. On n'a même pas eu recours aux experts en écriture. Le silence, l'étouffement, je ne connais que ça. J'agirai, j'y mettrai le prix. Mais pour la famille, il faut recouvrir tout ça. Il faut recouvrir. » Thérèse n'entendit pas la réponse de Duros, car ils avaient allongé le pas. Elle aspira de nouveau la nuit pluvieuse, comme un être menacé d'étouffement. Et soudain s'éveilla en elle le visage inconnu de Julie Bellade, sa grand-mère maternelle, inconnue. On eût cherché vainement chez les Laroque ou chez les Desqueyrou un portrait, un daguerréotype, une photographie de cette femme dont nul ne savait rien, sinon qu'elle était partie un jour. Thérèse imagine qu'elle aurait pu être ainsi effacée, anéantie, et que plus tard, il n'eût pas même été permis à sa fille, à sa petite Marie, de retrouver dans un album la figure de celle qui l'a mise au monde. Marie, à cette heure, déjà s'endort dans une chambre d'Argelouse, où Thérèse arrivera tard ce soir. Alors la jeune femme entendra, dans les ténèbres, ce sommeil d'enfant. Elle se penchera et ses lèvres chercheront, comme de l'eau, cette vie endormie. Au bord du fossé, les lanternes d'une calèche, dont la capote était baissée, éclairaient deux croupes maigres de chevaux. Au-delà se dressait, à gauche et à droite de la route, une muraille sombre de forêt. D'un talus à l'autre, les cimes des premiers pins se rejoignaient et, sous cet arc, s'enfonçait la route mystérieuse. Le ciel, au-dessus d'elle, se frayait un lit encombré de branches. Le cocher contemplait Thérèse avec une attention goulue. Comme elle lui demandait s'ils arriveraient assez tôt pour le dernier train à la gare de Nizan, il la rassura. Tout de même, mieux valait ne pas s'attarder. « C'est la dernière fois que je vous donne cette corvée, Gardère. »« Madame n'a plus à faire ici. » Elle secoua la tête et l'homme la dévorait toujours des yeux. Devrait-elle, toute sa vie, être ainsi dévisagée ?« Alors, tu es contente ?» Son père semblait enfin s'apercevoir qu'elle était là. Thérèse, d'un bref regard, scruta ce visage sali de bile, ses joues hérissées de durs poils d'un blanc jaune que les lanternes éclairaient vivement. Elle dit à voix basse « J'ai tant souffert, je suis rompue. » Puis s'interrompit « À quoi bon parler ? Il ne l'écoute pas, ne la voit plus. Que lui importe ce que Thérèse éprouve ? Cela seul compte, son ascension vers le Sénat, interrompue, compromise à cause de cette fille, toutes des hystériques quand elles ne sont pas des idiotes. Heureusement, elle ne s'appelle plus Laroque, c'est une Desqueyrou. La cour d'assises évitée, il respire. Comment empêcher les adversaires d'entretenir la plaie ? Dès demain, il ira voir le préfet. Dieu merci, on tient le directeur de la lande conservatrice, cette histoire de petite fille. Il prit le bras de Thérèse. Monte vite, il est temps. Alors l'avocat, perfidement peut-être, ou pour que Thérèse ne s'éloignât pas sans qu'il lui eût adressé une parole, demanda si elle rejoignait dès ce soir M. Bernard Desqueyrou. Comme elle répondait « Mais bien sûr, mon mari m'attend », elle se représenta pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le juge qu'en effet dans quelques heures elle passerait le seuil de la chambre où son mari était étendu, un peu malade encore, et qu'une indéfinie suite de jours de nuits s'ouvrait, au long desquels il faudrait vivre tout contre cet homme. Établie chez son père aux portes de la petite ville depuis l'ouverture de l'instruction, sans doute avait-elle souvent fait ce même voyage qu'elle entreprenait ce soir. Mais elle n'avait alors aucune autre préoccupation que de renseigner exactement son mari. Elle écoutait, avant de monter en voiture, les derniers conseils de Duros touchant les réponses que devait faire M. Desqueyrou lorsqu'il serait de nouveau interrogé. Aucune angoisse chez Thérèse en ce temps-là, aucune gêne à l'idée de se retrouver face à face avec cet homme malade. Il s'agissait alors entre eux non de ce qui s'était passé réellement, mais de ce qu'il importait de dire ou de ne pas dire. Jamais les deux époux ne furent mieux unis que par cette défense, unis dans une seule chair, la chair de leur petite fille Marie. Ils recomposaient, à l'usage du juge, une histoire simple, fortement liée, et qui put satisfaire ce logicien. Thérèse, à cette époque, montait dans la même calèche qui l'attend ce soir, mais avec quelle impatience d'achever ce voyage nocturne dont elle souhaite à présent de ne pas voir la fin. Elle se souvient qu'à peine en voiture, elle eût voulu être déjà dans cette chambre d'Argelouze et se remémorait les renseignements qu'attendait Bernard Desqueyrou, qui ne craignait pas d'affirmer qu'elle lui avait parlé un soir de cette ordonnance dont un homme inconnu l'avait supplié de se charger sous prétexte qu'il n'osait plus paraître chez le pharmacien à qui il devait de l'argent. Mais Duros n'était pas d'avis que Bernard allât jusqu'à prétendre qu'il se souvenait d'avoir reproché à sa femme une telle imprudence. Le cauchemar dissipé, de quoi partiront-ils ce soir Bernard et Thérèse? Elle voit en esprit la maison perdue où il l'attend. Elle imagine le lit au centre de cette chambre carrelée, la lampe basse sur la table parmi des journaux et des fioles. Les chiens de garde que la voiture a réveillés aboient encore, puis se taisent. Et de nouveau régnera ce silence solennel, comme durant les nuits où elle contemplait Bernard en proie à d'atroces vomissements. Thérèse s'efforce d'imaginer le premier regard qu'ils échangeront tout à l'heure. Puis, cette nuit et le lendemain, le jour qui suivra, les semaines dans cette maison d'Argelouze où ils n'auront plus à construire ensemble une version avouable du drame qu'ils ont vécu. Rien ne sera plus entre eux que ce qui fut réellement. Ce qui fut réellement. Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Cette odeur de cuir moisi des anciennes voitures, Thérèse l'aime. Elle se console d'avoir oublié ses cigarettes, détestant de fumer dans le noir. Les lanternes éclairent les talus, une frange de fougères, la base des pins géants. Les piles de cailloux détruisent l'ombre de l'équipage. Parfois passe une charrette et les mules d'elles-mêmes prennent la droite sans que bouge le muletier endormi. Il semble à Thérèse qu'elle n'atteindra jamais Argelouse. Elle espère ne l'atteindre jamais. Plus d'une heure de voiture jusqu'à la gare de Nizan, puis ce petit train qui s'arrête indéfiniment à chaque gare. De Saint-Clair même, où elle descendra jusqu'à Argelouse, 10 kilomètres à parcourir en carriole. Telle est la route qu'aucune auto n'oserait s'y engager la nuit. Le destin, à toutes les étapes, peut encore surgir, la délivrer. Thérèse cède à cette imagination qui l'eût possédée la veille du jugement si l'inculpation avait été maintenue, l'attente du tremblement de terre. Elle enlève son chapeau, appuie contre le cuir odorant sa petite tête blême et ballottée, livre son corps au chaos. Elle avait vécu jusqu'à ce soir d'être traquée. Maintenant que la voix la sauve, elle mesure son épuisement. Joue creuse, pommettes, lèvres aspirées, et ce large front magnifique compose une figure de condamnée. Oui, bien que les hommes ne l'aient pas reconnue coupable, condamnée à la solitude éternelle. Son charme que le monde naguère disait irrésistible, tous ces êtres le possèdent dont le visage trahirait un tourment secret, l'élancement d'une plaie intérieure s'il ne s'épuisait à donner le change. Au fond de cette calèche cahotante, sur cette route frayée dans l'épaisseur obscure des pins, une jeune femme démasquée caresse doucement avec la main droite sa face de brûlée vive. Quelles seront les premières paroles de Bernard, dont le faux témoignage l'a sauvée? Sans doute ne posera-t-il aucune question ce soir, mais demain. Thérèse ferme les yeux, les rouvre, et comme les chevaux vont au pas, s'efforce de reconnaître cette montée. Ah, ne rien prévoir. Ce sera peut-être plus simple qu'elle n'imagine. Ne rien prévoir, dormir. Pourquoi n'est-elle plus dans la calèche? Cet homme, derrière un tapis vert, le juge d'instruction encore lui. Il sait bien pourtant que l'affaire est arrangée. Sa tête remue de gauche à droite. L'ordonnance de non-lieu ne peut être rendue, il y a un fait nouveau. Un fait nouveau. Thérèse se détourne pour que l'ennemi ne voie pas sa figure décomposée. Rappelez vos souvenirs, madame. Dans la poche intérieure de cette vieille pèlerine, celle dont vous n'usez plus qu'en octobre pour la chasse à la palombe, n'avez-vous rien oublié, rien dissimulé? Impossible de protester, elle étouffe. Sans perdre son gibier des yeux, le juge dépose sur la table un paquet minuscule cacheté de rouge. Thérèse pourrait réciter la formule inscrite sur l'enveloppe et que l'homme déchiffre d'une voix coupante. Chloroforme, 30 grammes. Aconitine, granule numéro 20. Digitaline sol, 20 grammes. Le juge éclate de rire. Le frein grince contre la roue, Thérèse s'éveille. Sa poitrine dilatée s'emplit de brouillard, ce doit être la descente du ruisseau blanc. Ainsi rêvait-elle, adolescente, qu'une erreur l'obligeait à subir de nouveau les épreuves du brevet simple. Elle goûte ce soir la même allégeance qu'à ses réveils d'alors. À peine un peu de trouble, parce que le non-lieu n'était pas encore officiel. Mais tu sais bien qu'il doit être d'abord notifié à l'avocat. Libre. Que souhaiter de plus? Ce ne lui serait qu'un jeu de rendre possible sa vie auprès de Bernard. Se livrer à lui jusqu'au fond, ne rien laisser dans l'ombre, voilà le salut. Que tout ce qui était caché apparaisse dans la lumière, et dès ce soir. Cette résolution comble Thérèse de joie. Avant d'atteindre Argelouse, elle aura le temps de préparer sa confession, selon le mot que sa dévote amie Anne de la Trave répétait chaque samedi de leurs vacances heureuses. Petite sœur Anne, chère innocente, quelle place vous occupez dans cette histoire? Les êtres les plus purs ignorent à quoi ils sont mêlés chaque jour, chaque nuit, et ce qui germe d'empoisonné sous leurs pas d'enfant. Certes, elle avait raison, cette petite fille, lorsqu'elle répétait à Thérèse, lycéenne raisonneuse et moqueuse. Tu ne peux imaginer cette délivrance après l'aveu, après le pardon. Lorsque la place nette, on peut recommencer sa vie sur nouveaux frais. Il suffisait à Thérèse d'avoir résolu de tout dire pour déjà connaître en effet une sorte de desserrement délicieux. Bernard saura tout, je lui dirai. Que lui dirait-elle? Par quel aveu commencer? Des paroles suffisent-elles à contenir cet enchaînement confus de désirs, de résolutions, d'actes imprévisibles? Comment font-ils tous ceux qui connaissent leurs crimes? Moi, je ne connais pas mes crimes. Je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je ne sais pas ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi. Ce qu'elle détruisait sur sa route, j'en étais moi-même terrifiée. Une fumeuse lampe à pétrole éclairait le mur crépi de la gare de Nizan et une carriole arrêtée. Que les ténèbres se reforment vite alentour. D'un train garé venaient des mugissements, des bêlements tristes. Gardère prit le sac de Thérèse et de nouveau il la dévorait des yeux. Sa femme avait dû lui recommander « Tu regarderas bien comment elle est et quelle tête elle fait ». Pour le cocher de M. Larocque, Thérèse d'instinct retrouvait ce sourire qui faisait dire aux gens « On ne se demande pas si elle est jolie ou laide, on subit son charme ». Elle le pria d'aller prendre sa place au guichet, car elle craignait de traverser la salle d'attente où deux métayères assises, un panier sur les genoux et branlant la tête, tricotaient. Quand il rapporta le billet, elle lui dit de garder la monnaie. Il toucha de la main sa casquette, puis, les rênes rassemblées, se retourna une dernière fois pour dévisager la fille de son maître. Le train n'était pas formé encore. Naguère, à l'époque des grandes vacances ou de la rentrée des classes, Thérèse Larocque et Anne de la Trave se faisaient une joie de cette halte à la gare de Nizan. Elles mangeaient à l'auberge un œuf frit sur du jambon, puis allaient, se tenant par la taille, sur cette route si ténébreuse ce soir. Mais Thérèse ne la voit en ces années finies que blanche de lune. Alors, elle riait de leurs longues ombres confondues. Sans doute parlait-elle de leur maîtresse, de leur compagne, l'une défendant son couvent, l'autre son lycée. Anne. Thérèse prononce son nom à haute voix dans le noir. C'était d'elle qu'il faudrait d'abord entretenir Bernard. Le plus précis des hommes, ce Bernard. Il classe tous les sentiments, les isole, ignore entre eux ce lacis de défilé, de passage. Comment l'introduire dans ces régions indéterminées où Thérèse a vécu, a souffert? Il le faut pourtant. Aucun autre geste possible tout à l'heure, en pénétrant dans la chambre, que de s'asseoir au bord du lit et d'entraîner Bernard d'étape en étape jusqu'au point où il arrêtera Thérèse. « Je comprends maintenant, lève-toi, sois pardonné. » Elle traversa à tâtons le jardin du chef de gare, sentit des chrysanthèmes sans les voir. Personne dans le compartiment de première où d'ailleurs le lumignon n'eût pas suffi à éclairer son visage. Impossible de lire. Mais quel récit n'eût paru fade à Thérèse au prix de sa vie terrible? Peut-être mourrait-elle de honte, d'angoisse, de remords, de fatigue, mais elle ne mourrait pas d'ennui. Elle se rencogna, ferma les yeux. Était-il vraisemblable qu'une femme de son intelligence n'arrivât pas à rendre ce drame intelligible? Oui, sa confession finie, Bernard la relèverait. Va en paix, Thérèse, ne t'inquiète plus. Dans cette maison d'Argelouse, nous attendrons ensemble la mort, sans que nous puissions jamais séparer les choses accomplies. J'ai soif. Descends toi-même à la cuisine. Prépare un verre d'orangeade. Je le boirai d'un trait, même s'il est trouble. Qu'importe que le goût me rappelle celui qu'avait autrefois mon chocolat du matin. Tu te souviens, ma bien-aimée, de ces vomissements? Ta chère main soutenait ma tête. Tu ne détournais pas les yeux de ce liquide verdâtre. mes syncopes ne t'effrayaient pas. Pourtant, comme tu devins pâle cette nuit où je m'aperçus que mes jambes étaient inertes, insensibles, je grelottais, tu te souviens? Et cet imbécile de docteur Pedmet stupéfait que ma température fût si basse et mon pouls si agité. Ah, songe Thérèse, il n'aura pas compris. Il faudra tout reprendre depuis le commencement. Où est le commencement de nos actes? Notre destin, quand nous voulons l'isoler, ressemble à ces plantes qu'il est impossible d'arracher avec toutes leurs racines. Thérèse remontera-t-elle jusqu'à son enfance? Mais l'enfance est elle-même une fin, un aboutissement. L'enfance de Thérèse, de la neige à la source du fleuve le plus sali. Au lycée, elle avait paru vivre indifférente et comme absente des menues tragédies qui déchiraient ses compagnes. Les maîtresses, souvent, leur proposaient l'exemple de Thérèse Larocque. Thérèse ne demande point d'autre récompense que cette joie de réaliser en elle un type d'humanité supérieure. Sa conscience est son unique et suffisante lumière. L'orgueil d'appartenir à l'élite humaine la soutient mieux que ne ferait la crainte du châtiment. Ainsi s'exprimait une de ses maîtresses. Thérèse s'interroge. Étais-je si heureuse? Étais-je si candide? Tout ce qui précède mon mariage prend dans mon souvenir cet aspect de pureté, contraste sans doute avec cette ineffaçable salissure des noces. Le lycée, au-delà de mon temps d'épouse et de mère, m'apparaît comme un paradis. Alors, je n'en avais pas conscience. Comment aurais-je pu savoir que, dans ces années d'avant la vie, je vivais ma vraie vie? Pure, je l'étais, un ange, oui, mais un ange plein de passion. Quoi que prétendissent mes maîtresses, je souffrais, je faisais souffrir. Je jouissais du mal que je causais et de celui qui me venait de mes amis. Pure souffrance qu'aucun remords n'altérait. Douleurs et joies naissaient des plus innocents plaisirs. C'était Thérèse d'Esquerou, un roman de François Mauriac, paru en 1927 aux éditions Grasset et disponible en poche. Cette émission était réalisée, comme toujours, par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre la sonate pour arpégione et piano de Schubert, interprétée par Rostropovitch et Britten. C'était un extrait de l'Allegro moderato. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche soir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.